Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct dans votre journal qui vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. C'est le début ce matin de la dernière semaine de campagne avant le premier tour des élections législatives dimanche et Emmanuel Macron écrit aux Français. Dans une lettre ce matin, le président appelle à voter et promet des changements. Le RN va dévoiler en fin de matinée son programme alors que des voix s'élèvent contre l'extrême droite. Vous les entendrez, enseignants, diplomates et même le chancelier allemand se dit préoccupé.
Et à 6 jours du premier tour, dernière ligne droite, quelles sont les forces en présence, les dernières tendances dans les sondages? Eh bien, Bernard Sananès de l'Institut Elab est en direct dans ce studio à 7h40.
Et la situation, vous l'entendrez, se tend à nouveau en Nouvelle-Calédonie. Affrontement et incendie cette nuit après le placement en détention provisoire de 7 indépendantistes.
Emmanuel Macron s'adresse à nouveau aux Français.
Oui, cette fois, c'est dans une lettre publiée ce matin dans la presse régionale pour le début de la dernière ligne droite. Premier tour des législatives dimanche, donc. Hélène Terzian du service politique à RMC. Emmanuel Macron écrit aux Français pour appeler à voter.
Oui, n'ayez pas peur, ne vous résignez pas dans cette longue lettre. Emmanuel Macron enjoint les Français à voter pour ce qu'il appelle la troisième voie, le bloc central. Il refuse de voir son camp pris en tenaille entre celui de l'extrême droite autour du RN et celui qu'il nomme volontairement celui de la France insoumise et de ses alliés. Le chef de l'État se justifie aussi sur sa décision de dissoudre l'Assemblée. Je sais que cela suscite de l'inquiétude et même une colère contre moi, mais c'était selon lui le seul choix possible. Objectif, explique un de ses proches réguliers, un de ses interlocuteurs réguliers, se montrer désintéressé. Cette élection, ce n'est pas un vote de confiance envers le président, dit-il, mais celle d'une question: qui pour gouverner la France, avant de conclure par deux promesses, changer sa manière de gouverner. Je ne suis pas aveugle, dit-il, je mesure le malaise démocratique et celle de rester à l'Élysée jusqu'en 2027, façon de battre en brèche l'argument de ses adversaires d'une démission contrainte en cas de blocage.
Et pendant ce temps, la gauche continue de s'écharper sur le nom d'un futur potentiel Premier ministre. C'est l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qui a relancé le débat en se positionnant samedi, suscitant depuis une cascade de réactions. Qu'il se mettent de côté, voilà ce que disait hier l'ancien président François Hollande. Le Premier ministre Gabriel Attal réclame que Jean-Luc Mélenchon participe demain au débat, demain soir, face à Jordan Bardella. En attendant, c'est ce matin que le RN va présenter son programme, ce qu'il compte faire en cas de victoire aux législatives, après avoir renoncé dans l'immédiat à abroger la réforme des retraites et à supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Mais quand bien même, dans le dernier sondage, est là pour BFM TV et la tribune dimanche, c'est le programme économique du RN qui est le jugé le plus crédible. De quoi convaincre Inès Zegloul?
Voter Jordan Bardella?
Je n'exclus pas. Maintenant, je suis encore indécise.
Vanessa pourrait peut-être finalement glisser dans l'urne un bulletin Rassemblement National, elle qui ne l'a jamais fait.
On est peut-être obligé de passer par là, arriver à un moment. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne vont pas en ce moment.
Au centre des préoccupations, justement.
Le coût de la vie, avec 50 euros, on fait pas grand-chose maintenant.
Et à ce sujet, ce sont les promesses de Jordan Bardella qui séduisent le plus Nathalie.
Pour le pouvoir d'achat, moi je dis qu'il peut faire des bonnes choses. Il a parlé de la retraite à 60 ans, pour ceux qui ont des longues carrières. Là, il m'a convaincue. J'étais convaincue par ce programme.
Pour beaucoup, il ne s'agit donc plus d'un vote contestataire.
C'était plus un vote de rejet au départ. Là, c'est plus un vote de conviction aujourd'hui.
Pour Benjamin Morel, politologue, c'est le résultat d'une stratégie de long terme orchestrée par le Rassemblement National.
La crédibilisation a conduit une partie des retraités, une partie des CSP+, aujourd'hui, à voter pour le RN, et une partie de l'électorat centriste qui aurait arbitré demain entre la gauche et le RN a potentiellement à porter ses voix sur le RN au second tour.
Et ainsi devancer dans les intentions de vote le nouveau Front Populaire et la majorité présidentielle.
Oui, 33% d'intention de vote pour le Rassemblement National dans le dernier sondage et là 27% pour le nouveau Front Populaire et 20% pour le camp macroniste. Mais alors des voix s'élèvent, je vous le disais, pour alerter en cas de victoire du Rassemblement National à ces législatives. Il y a des enseignants, des diplomates aussi du Quai d'Orsay dans des tribunes. Même le chancelier allemand, donc Olaf Scholz, se dit préoccupé.
Je suis toujours prudent quand je dois donner mon avis sur le résultat d'une élection avant qu'elle ait lieu. Cela vaut pour les élections dans notre pays et encore plus à l'étranger. Je suis préoccupé par les élections en France et j'espère que les partis qui ne sont pas celui de Marine Le Pen, pour le dire comme ça, gagneront les élections. Mais c'est aux Françaises et aux Français de décider.
La déclaration de la soirée, vous allez l'entendre, c'est celle de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien assure que les combats intenses, comme il dit, il assure que ces combats sont bientôt finis à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
La phase intense des combats est sur le point de se terminer. Une fois cette phase terminée, nous pourrons déplacer nos forces vers le nord, principalement pour des raisons défensives, mais aussi pour ramener les habitants déplacés chez eux. On le fera diplomatiquement si possible, sinon on le fera autrement. Mais nous ramènerons tous les habitants chez eux, du nord comme du sud.
Je vous le disais, la situation se tend à nouveau en Nouvelle-Calédonie, dans la foulée de la mise en examen et du placement en détention provisoire en métropole de 7 indépendantistes accusés d'être à l'origine des émeutes. Des incendies et des affrontements ont fait un blessé cette nuit, Solène Gardry.
Une nuit marquée par des explosions et des incendies qui ont brûlé notamment un commissariat municipal et une mairie. On compte aussi un blessé lors d'affrontements entre les indépendantistes et les forces de l'ordre. Ces tensions ont lieu sur l'ensemble de Grandes Terres, l'île principale, avec aussi la mise en place de nouveaux barrages et la prise à partie des forces de l'ordre. Selon le Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, de nombreux renforts ont dû être mobilisés. 6 semaines après le début des émeutes, ce regain de violence est dû à la mise en examen samedi de 7 militants liés au mouvement indépendantiste du CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, et à leur envoi en métropole pour être placés en détention provisoire.
J'ai 2 informations pratiques à vous donner ce matin. D'abord, le bout du tunnel en région parisienne. C'est en fin de journée que va rouvrir la 13, l'autoroute de l'Ouest parisien, qui est en partie fermée depuis 2 mois pour cause de fissures. Réouverture totale donc en fin de journée. Et puis le début d'une opération escargot. Il y a des chauffeurs VTC ce matin à Marseille entre la gare Saint-Charles et le Vieux-Port pour dénoncer les conditions de travail via les plateformes. Ils veulent aussi pouvoir utiliser les couloirs de bus pendant les Jeux Olympiques cet été. Le foot, fallait rester jusqu'à la fin, vraiment, hier soir à l'Euro, à l'écoute de RMC. La Hongrie a gagné 1-0 contre l'Écosse après 10 minutes d'arrêt de jeu, donc au bout du bout du bout. Et c'est l'Allemagne de Toni Kroos qui termine première de son groupe en accrochant le nul 1-1 contre la Suisse hier soir, là aussi, dans les arrêts de jeu.
Avant toute chose, on est très content d'avoir réussi à se qualifier. On est aussi heureux d'avoir réussi à revenir après avoir été mené. Je pense que ce n'était pas immérité. La Suisse a marqué dès sa première occasion et au final, on mérite ce match nul parce qu'on a tout donné pendant 60 minutes.
Italie-Croatie. Et les Bleus joueront demain contre la Pologne. En attendant, Kylian Mbappé lui s'est entraîné avec un nouveau masque hier. Et puis c'est la belle histoire du week-end en sport. Il y avait les championnats de France de cyclisme et c'est le Normand Paul Lapeyra, révélation de la saison, qui a été sacré à seulement 10 km de chez lui, Arnaud Souk.
Oui, 2024 restera la saison de la révélation pour le Breton, vainqueur hier de sa 4e course professionnelle. La 4e depuis le début de l'année, avec forcément derrière le sourire un brin d'émotion sur le podium.
C'est pas les mots, c'est formidable. Évidemment, le maillot bleu-blanc-rouge, il fait rêver. On m'aurait dit au mois de janvier ce qui allait m'arriver les 6 mois suivants, j'aurais jamais cru. C'est juste incroyable.
À 24 ans, Paul Lapeyra devient le plus jeune champion de France depuis Arnaud Démare en 2014. Tout cela après un numéro exceptionnel avec ses compagnons d'échappée conclu par un sprint maîtrisé. Pas de quoi étonner son manager général chez Decathlon. Athlon AG2R, Vincent Lavenu.
Paul a été exceptionnel. Il a vraiment passé un cap important cette année. On ne sait pas aujourd'hui où ses qualités vont s'arrêter. C'est un garçon qui a des qualités de puncher indéniables, qui est capable surtout de bien maîtriser ses émotions dans le final. Et ça, c'est un atout indéniable pour remporter les grandes épreuves.
Reste à savoir si Paul Lapeyra pourra traîner son maillot tricolore sur les routes du Tour de France dès samedi à Florence. Vincent Lavenu voulait y regarder la surprise.
Je sais que vous êtes impatient, mais c'est à vous de deviner.
Il dévoilera en milieu de matinée le nom des 8 coureurs qu'il a sélectionnés pour courir sur la grande boucle.
Et c'est déjà samedi, effectivement, que commence le Tour de France depuis l'Italie.
On a hâte, ça sent l'été, ça. Pour cause de JO, non, c'est ça, ça démarre un peu plus tôt.
Ça commence une semaine plus tôt avec les JO et ça ne se termine pas à Paris sur les Champs-Élysées. Cette année, ça se terminera à Nice, mais pour la promenade des Anglais, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, effectivement.
Magnifique, et ça sera à vivre, évidemment, sur RMC. Intégral Tour à partir de samedi prochain. Vous ne manquez rien, l'Euro, le Tour, les JO, et puis évidemment la politique, cette campagne des législatives. Vous ne manquez rien sur RMC, toute l'info avec Quentin Vinet, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h pour un prochain journal. Il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Des fonctionnaires qui veulent entrer en résistance. C'est le cas de certains cadres de l'éducation nationale qui appellent à désobéir si le RN arrive au pouvoir le 7 juillet prochain. Explication dans un instant avec le principal de collège qui a lancé cet appel. Il est le témoin du jour tout de suite sur RMC.
RMC, 6h39h. Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Charles Magnien.
7h10, bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Et on est dans ce studio avec Emmanuel Constant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes principal d'un collège à Vincennes, près de Paris. Vous êtes également vice-président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bon, ça, j'imagine qu'en tant que socialiste, vous appelez à voter pour les candidats du nouveau Front populaire lors des élections législatives.
En l'occurrence, c'est pas mon propos, hein. Moi, je suis.
Non, mais c'est important matin, le préciser. Mais en effet. Vous appelez donc à voter pour le nouveau Front populaire, ça c'est en tant que socialiste, mais ce matin c'est votre casquette, oui, de principale qui nous intéresse, car vous avez lancé un appel à désobéir si le prochain gouvernement est dirigé par le Rassemblement national. Soyons concrets, ça veut dire quoi désobéir ?
Ne pas obéir, en l'occurrence, parce que c'est ce terme-là qui est utilisé dans le texte, ça fait référence à l'idée selon laquelle les cadres de l'éducation nationale que nous sommes, c'est-à-dire inspecteurs, principaux, directeurs ou directrices d'école, des cadres d'exécution, mettent au-dessus des d'éventuelles directives gouvernementales les valeurs de l'école auxquelles on est toutes et tous attachés. C'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas une menace, c'est une crainte de voir des mesures.
Mais quelles mesures, soyons concrets, quelles mesures vous pousseraient à, alors vous ne dites pas désobéir, à ne pas obéir.
Oui, quelles mesures? En tant que principal d'établissement, par exemple, en tant que principal de collège, nous nous refuserions, par exemple, à vérifier le caractère légal ou réglementaire du droit de séjour de nos élèves sur le territoire français.
Pour le dire autrement, si on vous demande de dénoncer vos élèves sans papier, voilà, vous refuserez de le faire.
Absolument, je vous le confirme. Parce que la mission de l'école, elle est indépendante finalement des gouvernements successifs. Il y a une forme de permanence. La noblesse de l'école, c'est d'accueillir tous les enfants.
On vous dira, vous êtes un agent de l'État, vous êtes fonctionnaire, vous devez obéir aux consignes gouvernementales.
Mais alors, j'obéis, monsieur.
Sauf à certaines, vous avez le droit de choisir, c'est à la carte.
Il s'agit pas de choisir.
Si la consigne me plaît, je l'exécute. Si elle ne me plaît pas, je n'obéis pas.
Non, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Vous savez, quand on choisit de devenir, par exemple, personnel de direction, on sait quelles sont les contraintes, on sait quelle est notre mission. On a une obligation de loyauté, mais on a une obligation de loyauté à la République. Et c'est cela dont il s'agit.
Vous faites la distinction entre l'État et la République.
Je fais la distinction entre les valeurs qui fondent notre régime politique démocratique, qui est républicain, et d'éventuelles dérives.
Mais si le RN accède au pouvoir, ce sera par la voie démocratique. C'est parce que les Français. Les fonctionnaires aussi, j'imagine que dans les salles des profs, maintenant, il y a des profs qui votent RN.
Enfin, sans doute.
Je veux dire, et ça fait débat. Que disent vos collègues, que ce soit, oui, principal, proviseur, mais aussi vos profs? Est-ce que certains, menacent de démissionner ou de ne pas obéir?
Mais chacun, après, en conscience et en responsabilité, prendra la décision qu'il juge pertinente. Certains qui ne souhaitent pas accompagner un éventuel gouvernement d'extrême droite vont décider de partir. D'autres vont décider de rester et d'appliquer, quand d'autres, dont je fais partie, ont plutôt l'intention de rester, de ne pas obéir lorsque un certain nombre de mesures seront considérées comme étant en contradiction avec les valeurs de la République. Et puis après, nous verrons.
On va accueillir Martial, qui a composé le 32-16 depuis la Seine-et-Marne. Martial, vous êtes... Martial, je m'entends dans votre téléphone. Non, c'est bon, ça marche. Martial, vous m'entendez bien? Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Martial, vous êtes personnel soignant, c'est ça, et parent d'élève?
Exactement.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, en tant que parent d'élève, d'entendre que certains, dans l'éducation nationale, des personnels de direction, des profs aussi, envisagent de ne pas appliquer les consignes d'un gouvernement dirigé par le Rassemblement national?
Moi, je suis assez surpris sans être surpris. Ce corps enseignant enseigne des institutions. Le corps enseignant se plaint. Ce sont les premiers à se plaindre de leur manque de respect de la part des parents et des élèves. Et là, ils manqueraient de respect à un vote démocratique. Là, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas.
C'est un bon argument, ça, Martial, que vous soulevez, Martial. Je vais laisser Emmanuel Constant vous répondre. C'est vrai que vous enseignez l'autorité aussi. Vous incarnez l'autorité auprès des élèves. Comment leur dire, moi, je me permets de ne pas obéir à des ordres. En revanche, vous devez respecter mon autorité en tant qu'élève.
C'est pas une question de respect de l'autorité ou pas. Encore une fois, les personnels qui ont signé ce texte ne sont pas dans l'insubordination, ne sont pas dans cette situation-là. Ils sont dans une logique de défense et de promotion des valeurs républicaines. Il y a, je ne veux pas faire la comparaison parce que la comparaison est évidemment pas pertinente, mais il y a des moments dans l'histoire de France où vous avez un certain nombre d'agents de l'État qui ont désobéi au regard des orientations que prenait un gouvernement. Il ne s'agit pas évidemment de comparer, n'est pas Jean Moulin qui veut, mais en l'occurrence, la question est celle-là.
Mais certains vous diront dans ce cas-là, autant démissionner. Mais vous n'êtes pas d'accord.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ce sera l'étape d'après, si je comprends bien.
Il faut s'attendre
à des grèves, à de la désobéissance à la rentrée.
Absolument. Un certain nombre de collègues, c'est des discussions qu'on peut avoir, sont dans cette logique-là, oui.
Ben merci, Emmanuel Constant, d'être venu défendre, témoigner aussi de ce sentiment qui existe visiblement dans les collèges, dans les lycées, dans les salles de profs. Je rappelle que vous êtes principal d'un collège à Vincennes, que vous êtes vice-président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et donc que vous avez lancé cet appel, relayé. Alors, je vais préciser qu'il y a près de 2000 signatures sur l'appel que vous avez lancé en ligne, mais que tout le monde peut le signer. Donc, je n'ai pas précisé que ce sont 2000, c'est pas forcément 2000 personnels de l'éducation
absolument,
nationale.
Je vous le confirme, mais en même temps, c'est une chose que je ne peux pas maîtriser.
Oui, mais c'est important de le dire.
Et mise comme ça. Simplement, le texte est cependant très clair. Il commence par « Nous sommes des femmes et des hommes, personnel de l'éducation nationale et cadre de l'éducation nationale ».
Et c'était important de le dire et ça va faire réagir, je n'en doute pas, au 32-16 comme l'a fait Martial. Merci Martial d'être passé. Il est 7h18 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Justement, dans 20 minutes, état des forces en présence à 6 jours du vote. Qui est en tête? De quel côté est la dynamique? À quoi pourrait ressembler la prochaine assemblée? On va tout savoir avec Bernard Sananès, le patron de l'Institut Elab, qui vient de sonder les Français et qui sera avec nous à 7h40. Et tout de suite, on retrouve l'équipe du 7h20 d'Apolline Matin, Amélie Rosic, Manu Le Chypre et Arnaud Demanche, qui va nous faire sourire. Il pirate le face-à-face tout de suite sur RMC.
Apolline Matin. Les indiscrets RMC.
Les coulisses de la campagne des législatives, à 6 jours maintenant du premier tour. On est avec Sébastien Krebs du service politique. Bonjour Sébastien.
Bonjour Charles.
Une question taraude le camp présidentiel qui anticipe déjà le second tour. Faudra-t-il un front républicain contre le RN, quitte à soutenir des candidats de gauche?
Oui, chez les stratèges de la campagne, la question se pose déjà parce que la situation va forcément se produire. Les sondeurs le disent, la forte participation va entraîner de nombreuses triangulaires. Peut-être une centaine, alors qu'il n'y en avait que 8 il y a 2 ans. Dans ces circonscriptions où 3 candidats pourront se maintenir, faudra-t-il alors faire front républicain avec la gauche pour battre le RN, quitte à se désister? Ce point n'a pas été tranché, mais des candidats ont commencé à s'en inquiéter auprès de Gabriel Attal lors d'une visio la semaine dernière. L'ancien ministre Clément Beaune, lui, dit clairement « Oui, il faudra toujours voter pour le candidat qui affronte le RN, y compris si c'est un insoumis. » Et c'est ce dernier point qui fait débat. RN, LFI, moi je les mets au même niveau, balaye un autre député sortant. Il faut faire barrage aux deux. Selon lui, il faudra décider au cas par cas. Plus facile, par exemple, de se ranger derrière un PS. Emmanuel Macron, lui aussi, a plutôt tendance à renvoyer dos à dos les deux extrêmes. L'un n'est pas le rempart de l'autre, a-t-il jugé vendredi soir. En tout cas, il faudra que la ligne soit claire dès dimanche soir, estime un cadre du camp présidentiel. Pour l'heure, ça nous affaiblit de se projeter là-dessus, dit-il, avec une conclusion. Cela prouve surtout que tout se joue au premier tour dimanche. Il ne faut surtout pas arriver troisième.
Merci Sébastien. Indiscret signé Sébastien Krebs du service politique d'RMC.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin, le 7h20. Charles Magnin.
Et à 7h22, toute l'équipe du 7h20 est déjà installée depuis 2 minutes, du coup maintenant, bonjour Manu Le Chypre, Arnaud Demanche, Amélie Rosic, bonjour
Charles.
À tous les trois.
Bonjour.
Amélie, aujourd'hui, on part dans le Nord pour tenter de sauver une petite entreprise.
Oui, les Olympiades, c'est son nom. Elle vend du textile et matériel sportif aux clubs et aux entreprises de la région des Hauts-de-France. 11 salariés qui travaillent dans cette petite entreprise qui existe depuis 30 ans. C'est important de le signaler parce qu'en début d'année, Guillaume, le patron, reçoit un courrier urgent du comité d'organisation. Organisation des Jeux Olympiques. L'organisme le met en demeure de changer de nom sous peine de poursuite. Il n'aurait en fait pas le droit d'utiliser la dénomination les Olympiades.
On ne profite nullement de la notoriété des Jeux Olympiques. Et évidemment, dans l'autre sens, on ne leur fait aucun tort non plus. On travaille que sur la région des Hauts-de-France, donc on est vraiment une toute petite structure. Pourquoi on vient nous embêter aujourd'hui? Pourquoi on nous a laissé faire pendant plus de 30 ans? Et pourquoi on est dans cette situation-là?
Guillaume est totalement sonné, notamment face à l'ampleur de ce que lui demandent les JO.
Effacer toutes les traces de ce qui existe aujourd'hui, hein. Donc ça passe par nos enseignes, notre site internet, nos véhicules, tout ce qui est logoté Olympiade. Ça représente sans doute à peu près 60 000 euros de frais pour nous. On sera en difficulté. Donc ce que je souhaite, c'est de la clémence et de la souplesse pour trouver une issue qui soit favorable pour tout le monde.
Et c'est pas tout à fait terminé parce que le comité réclame aussi 4 500 euros en compensation des frais, des préjudices et des frais d'avocat engagés.
C'est incroyable cette histoire, Amélie. Vous avez tenté de jouer. Les médiateurs, est-ce que ça a marché?
Alors déjà, on va être obligé de commencer par préciser ceci. Les JO sont dans leur bon droit.
Ah.
C'est vrai. L'article L141, alinéa 5 du Code du sport, stipule bien que le comité est propriétaire de plein d'appellations, et notamment l'appellation Olympiade. D'ailleurs, un service entier est chargé de la surveillance de ses propriétés intellectuelles. C'est comme ça que la petite entreprise de Guillaume est apparue sur les radars.
Et donc, il n'y a aucune marge de manœuvre?
Alors, si, celle du bon sens, en tout cas, c'est ce qu'on a tenté de faire valoir. Il est évident qu'une PME de 11 salariés dans le Nord qui existe depuis 30 ans ne fait a priori pas de concurrence directe au JO. C'est ce qu'on a tenté d'expliquer. Jusqu'ici, le comité demandait donc à Guillaume de tout changer avant la fin de la semaine, donc avec un délai... C'est pas une blague.
Ça pour avant-hier.
Voilà. Finalement, suite à notre intervention, l'entreprise a 8 mois pour se mettre en règle. Donc après les JO, finalement.
Oui.
Donc ça veut dire changer de nom et changer de logo. Ça va lui coûter. Ça va être autant de frais, c'est-à-dire 60 000 euros pour tout changer. Mais le comité olympique, grâce à nous, renonce aux 4 500 euros de dommages qu'il réclamait. C'est peu, mais c'est déjà pas mal.
Oui. Et puis dans 8 mois, on sera longtemps après les JO.
Oui, alors peut-être que
voilà, on pourra faire le point à ce moment-là.
On va faire le point, on va en discuter, qu'ils vont se dire bon, ça existait depuis 30 ans, on va lui relaisser 30 ans.
Évidemment, on rappelle l'adresse pour vous contacter, Amélie, RMC avec vous, @rmc.fr. Tout de suite, Manu, l'économie et Édouard Philippe, qui veut un nouveau système de financement des retraites.
Oui, alors, c'est pas tellement parce que c'est Édouard Philippe qui le propose. Le problème, c'est que. Non, mais ce dont on est preneur, c'est des bonnes idées nouvelles.
Oui,
je précise. Pour notre système de retraite. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que l'équation, elle est toujours pas résolue. Le Conseil d'orientation des retraites nous a dit dans son dernier rapport, la réforme Macron qui met l'âge de départ à 64 ans, c'est bien, sauf que ça ne suffit pas à équilibrer le système. Donc, il faudra autre chose. Et puis, quand on regarde les propositions des grands partis aux élections législatives, vous avez ceux qui vous proposent de revenir au régime d'hier, c'est le Rassemblement National avec les 62 ans, puis il y a ceux qui vous proposent de revenir au régime d'avant-hier, qui sont les 60 ans, qui est tout ce que propose le nouveau Front Populaire. Il faut rappeler que revenir à 62 ans, c'est 8 milliards de déficit supplémentaire par an, et revenir à 60 ans, c'est à peu près 20 milliards de déficit par an de notre système de retraite. Et donc, on se dit, tiens, Édouard Philippe, il a une nouvelle idée, donc on regarde, et on se rend compte que finalement, son nouveau modèle, alors il est extrêmement prudent, attention, il y a des mots qu'il prononce à peine, parce qu'il y a des mots inflammable, vous voyez, capitalisation par exemple. Alors bon, il dit, nouveau modèle qui consisterait à ajouter une dose de capitalisation au système actuel par répartition. Bon, c'est ça, ou alors il faudrait être très clair, avec le vieillissement démographique, repousser
alors,
toujours et encore.
Il faut traduire, capitalisation, une dose de capitalisation, alors, ça veut dire quoi? Ça fonctionnerait comment?
Alors le système actuel, vous avez la retraite de base, la retraite sécu, dont le montant dépend du nombre de trimestres travaillés. Il y a la retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco qui fonctionne. Là, c'est un régime par points. Obtenu en fonction de vos cotisations, ça c'est obligatoire. Et puis parfois vous avez ce qu'on appelle une retraite supplémentaire ou surcomplémentaire. Là c'est le retraité qui la finance en souscrivant auprès d'une banque ou d'un assureur. Alors soit il le fait lui-même, soit c'est son entreprise qui le fait pour lui. Et ça c'est déjà de la capitalisation. Et on va rappeler que ça concerne par exemple, c'est 3 millions de personnes aujourd'hui
déjà,
qui ont cette retraite-là. Et puis on peut rappeler que ça concerne par exemple les fonctionnaires avec la fameuse préfonds qui eux ont déjà cette dose de capitalisation. Et il faut rappeler que beaucoup de pays étrangers l'ont fait et que ça fonctionne. Je vous donne l'exemple des Pays-Bas. Les retraites, c'est 7% du PIB aux Pays-Bas. C'est 14% en France. Sauf que les retraites aux Pays-Bas, elles sont 30% supérieures à ce qu'elles sont en France.
Donc à surveiller.
À surveiller, voilà. Une idée qui paraît raisonnable.
Une nouvelle idée. C'est ça qui est important. C'est une nouvelle idée dans le débat public.
Une nouvelle piste, on va dire.
Arnaud, l'invité du face-à-face ce matin, face à Neyla Latrousse, ce sera la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet.
Attention Nicole, on rend les copies dans une heure, parce que la ministre passe un peu le bac hein, ce matin avec Philo aujourd'hui et ce sujet. Comment faire confiance à Emmanuel Macron pour sauver l'éducation nationale, alors que ça fait 7 ans qu'il bousille tout dedans? C'est pas facile, vous avez 30 minutes. Alors beaucoup de choses à demander à Nicole Belloubet, tiens en ce moment c'est les stages de seconde. Et cette première question, pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait à Nicole Belloubet pour qu'on doive gérer des boutonneux à qui on peut rien demander?
Je sais pas comment on fait, monsieur, on peut aller manger.
Alors évidemment, les autres partis proposent leurs pistes. Le programme du RN pour l'éducation nationale, c'est le retour de l'uniforme à l'école, envoyer les élèves perturbateurs dans des centres spécialisés, et toutes les salles de classe devront afficher une frise chronologique retraçant le récit national de Clovis à Vercingétorix. Donc Nicole viendra nous expliquer que face à ça, le programme de LFI, ce sera un uniforme aussi, Sarouel et Kéfier, envoyer les élèves perturbateurs à l'Assemblée nationale, et toutes les classes devront afficher une frise chronologique retraçant le récit national de Robespierre à Jean-Luc Mélenchon, ainsi que des cours d'arabe et danse du ventre obligatoires. Mais qu'à l'inverse, le programme d'Emmanuel Macron, ce sera pas d'uniforme, mais une gamme de vêtements scolaires designés par Pharrell Williams pour Louis Vuitton. Des classes de 3 élèves maximum, recrutement massif de professeurs payés 8 500 € par mois, et une frise chronologique dans les classes, retraçant le récit économique national de Alexis Tocqueville à Emmanuel Le Chypre et Pierre Kupferman. Bref, on va parler cartable, crayon et double décimètre avec Nella.
La trousse,
évidemment.
Oui,
il fallait le jeu de mots.
Rendez-vous à
8h30 face à Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale. Et puis on vous retrouve avant, à 8h20 sur RMC. Arnaud, à tout à l'heure. Allez, tout de suite, la météo et le journal de 7h30.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Bon réveil à tous, toute l'info en direct, votre journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français à 6 jours du scrutin législatif. La thématique arrive en tête des préoccupations des électeurs, loin devant la sécurité et l'immigration. Comment une femme de 37 ans a pu se retrouver dans l'enclos des loups au zoo de Thoiry hier matin? Une mère de famille grièvement blessée, mordue par les loups, désormais hors de danger. Et puis masque noir sur le visage, Kylian Mbappé signera-t-il un but de la pointe de son pied. Demain, face à la Pologne, le capitaine des Bleus, charrié par ses coéquipiers hier à l'entraînement.
Les mesures pour le pouvoir d'achat, plébiscité dans l'urne dimanche prochain.
C'est selon un sondage Elab pour BFM TV et la Tribune dimanche, le thème qui aura le plus d'importance pour les électeurs. 58% des Français placent la thématique dans leurs préoccupations. Et pour un quart d'entre eux, il s'agit même d'une priorité devant la sécurité, devant l'immigration. L'écologie arrive en dernière position, un pouvoir d'achat mis à mal par l'inflation avec pour conséquence la popularisation des lotos et des bingos. Dépenser quelques euros pour tenter de gagner des bons d'achat. Illustration à Aubigny au Bac dans le Nord, Johanna Chabas.
Près de 200 personnes sont venues tenter leur chance.
Et on y va avec le 57.
À gagner des bons d'achat de 30 à 1000 euros pour le supermarché du coin.
Vous gagnez 20 euros. La semaine dernière, j'ai gagné 100. Ça nous fait oublier les petits tracas quotidiens.
Au milieu des habitués aux cheveux blancs, de plus en plus de jeunes, Marco a 17 ans et s'est mis au loto l'an dernier.
Tous les week-ends, dès qu'on a un loto, ben on vient. Ma compagne, elle a gagné 1500 euros pour faire ses courses à aide.
Depuis l'année dernière et l'inflation, ce loto a vu sa moyenne d'âge chuter de 75 à 40 ans. Linda, dans la trentaine, vient pour s'amuser, mais aussi pour soulager ses fins de mois.
Forcément, quand on voit les prix en magasin, quand aujourd'hui ici on peut gagner, enfin, même si c'est 100 ou 50 euros en bon, ça fait toujours un plus. Hein. De toute façon, aujourd'hui tout se prend. Hein.
Nathalie, elle, est devenue une habituée, inquiète pour son pouvoir d'achat, elle attend beaucoup des élections à venir.
Il faut que ça change quand même. Ouais. Il est temps. Surtout les 3 enfants à la maison. Il faut les nourrir. Malgré qu'on travaille à deux, c'est très dur.
Elle ira voter dimanche avant de se rendre au loto, comme toutes les semaines.
Le pouvoir d'achat comme priorité, les différents blocs candidats aux élections l'ont bien compris, les promesses fusent. C'est le cas du Rassemblement National de Jordan Bardella qui présente ce matin à 11h son programme complet ainsi que sa feuille de route pour Matignon si le RN venait à l'emporter le 7 juillet prochain. Une victoire en laquelle croit Emmanuel Macron. Ne vous résignez pas, votez, écrit le chef de l'État et qui promet d'agir jusqu'en 2027 dans une lettre aux Français publiée ce matin dans la presse locale. Emmanuel Macron dit avoir entendu le message promettant des changements à venir à attaquant tour à tour RN et Nouveau Front Populaire, l'union de la gauche qui continue de se tirailler autour du prochain Premier ministre en cas de victoire. Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré ce week-end son intention de gouverner le pays, a provoqué, Cyprien Pézril, une nouvelle levée de boucliers.
Un communiqué de Fabien Roussel pour dire non à Jean-Luc Mélenchon à Matignon, François Hollande qui lui demande de se taire, ou encore les écologistes qui appellent à choisir un Premier ministre fédérateur. Tout le week-end, les alliés du Nouveau Front Populaire se sont écharpés sur la question du chef du gouvernement, qu'ils ont, contrairement aux RN et aux macronistes, choisi d'évacuer. Alors ce matin, la réunion quotidienne des grands chefs de l'Alliance sera tendue et la question ne sera pas évacuée. Le Front Populaire, c'est un espace de rapport de force, menace un mélenchoniste qui prévient qu'il n'est pas hors jeu. Mais Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir. S'il voulait sincèrement la victoire, il ne se mettrait pas en première ligne, répond un de ses opposants. L'insoumis qui semble surtout chercher à conserver le leadership à gauche, quitte à semer la pagaille. Il y a à peine une semaine, il affirmait pourtant « Je ne veux en aucune façon être un problème ».
Et le prochain gouvernement qui aura pour tâche d'apaiser la colère en Nouvelle-Calédonie où des heurts ont éclaté la nuit dernière sur l'archipel entre indépendantistes et forces de l'ordre. Un regain de tension marqué par l'incendie de plusieurs bâtiments, dont un commissariat et une mairie. Il est 7h35, vous écoutez RMC, une enquête ouverte pour blessures involontaires après qu'une femme ait été grièvement blessée hier matin au zoo de Thoiry, attaquée par une meute de loups alors qu'elle faisait son footing. Âgée de 37 ans, elle venait à Mlin-Lavchin de passer la nuit dans un lodge du parc à proximité des animaux.
C'est au petit matin, lorsqu'elle est partie faire son footing, que les loups s'en sont pris à cette femme dans une zone accessible uniquement aux visiteurs en voiture, où l'on peut observer les animaux dans leur environnement naturel.
Il y a des loups, des ours, des coyotes.
Christelle Bercheny est PDG du zoo de Thoiry.
Elle a franchi l'enceinte qui permet de rentrer en voiture, donc c'est une enceinte électrique.
Alors comment cette femme s'est-elle retrouvée dans cet espace? C'est ce que l'enquête doit déterminer. Mais selon le parc, les clients sont informés sur les dangers.
Ils ont un plan, ils ont des consignes de sécurité, ils ont un brief, ils ont les animateurs qui sont avec eux toute la soirée. Toutes les informations qui indiquent que c'est une zone dangereuse.
Blessée au cou, au dos et au mollet, elle est rapidement prise en charge par les soignants du zoo, présents au moment de l'incident.
Ils étaient en train de nourrir justement les groupes de loups et ont pu entendre justement les cris de la personne pour pouvoir intervenir au plus vite.
Et même si ces loups sont habitués à l'humain, Marc Giraud, naturaliste, n'est pas surpris. Selon lui, c'est parce qu'elle courait que les loups l'ont attaquée.
Pour n'importe quel prédateur, que ce soit un chien, un loup, un tigre, n'importe quoi, un chat, tout ce qui bouge les fascine et ils courent après. Il y avait tout pour que ces loups soient stimulés.
Une enquête a été ouverte pour blessure involontaire et confiée à la brigade de recherche de Mantes-la-Jolie.
Le reportage d'Ameline Lafchin pour RMC. France-Pologne, c'est demain. Dernier match de poule pour les Bleus qui vise la victoire et une qualification au huitième de finale de l'Euro. Avec toujours cette question, Kylian Mbappé sera-t-il de la partie? Arthur Perrault, l'attaquant, s'est entraîné hier avec ses coéquipiers avec un nouveau masque sur le visage pour protéger son nez fracturé.
Oui, Kylian Mbappé s'est essayé avec un nouveau masque noir avec son nom et numéro inscrit. Et dès son arrivée sur la pelouse, il s'est fait chambrer par Antoine Griezmann qui fredonnait la chanson de Zorro. Mais sur ses 10 premiers tirs à l'entraînement, aucun but inscrit de Mbappé. Le joueur du Real Madrid a demandé à changer de masque avant de totalement le retirer pour un jeu en fin de séance dans la bonne ambiance. Un entraînement léger, surtout fait pour les remplaçants du dernier match contre les Pays-Bas. L'attaquant Bradley Barcola n'a pas vraiment rassuré lui non plus, multipliant les frappes ratées face aux gardiens. Reste à plusieurs changements pour la rencontre demain soir face à la Pologne. Reste à savoir si Kylian Mbappé fera partie des heureux élus.
France-Pologne à vivre sur RMC demain dès 18h. Avant ça, l'Italie tentera aujourd'hui de décrocher son billet pour les huitièmes face à la Croatie. L'Espagne affronte l'Albanie. Hier soir, l'Allemagne et la Suisse ont fait match nul un partout. Les deux équipes se qualifient pour la suite de la compétition.
Les courses, ce sera à Lyon-Paris aujourd'hui.
Et c'est à 13h55 sur RMC. Découverte en direct le 10 Thunder Speed et le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 6 Bozio, le 10 et le 6.
C'est noté, c'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h38 sur RMC.
RMC, 6h39,
Apolline Matin.
Et on entre ce matin dans la dernière semaine de campagne. Dimanche prochain, on vote. Un scrutin encore très incertain. On va en parler dans un instant avec Bernard Sananès de l'Institut Elab. Il nous décrypte son dernier sondage qui place le RN en tête des intentions de vote. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur le visage de la prochaine Assemblée. Réponse dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le RN en tête dans les sondages, ça inquiète des cadres de l'éducation nationale, des magistrats, des acteurs de la santé. Certains appellent à ne pas obéir à certaines consignes d'un éventuel futur gouvernement Rassemblement National. Ça vous fait réagir ce matin sur Direct Studio. Rémi, par exemple, dit qu'ils ont raison de désobéir pour ceux qui voudraient les virer. N'oubliez pas qu'ils sont en temps sous-nombre. Fabien, de son côté, dit que ses fonctionnaires ont bien raison. L'école publique doit accueillir tout le monde, même les enfants sans papier. Tout le monde n'est pas d'accord. Eric, par exemple, nous dit que ce que veulent faire les enseignants n'est pas
pas démocratique. Je me bats contre les extrêmes, mais l'éducation devrait être un sanctuaire où on ne fait pas de politique. C'est scandaleux, nous dit Bouygues, si à chaque fois les mécontents ne respectent pas la démocratie, ce n'est plus la peine de voter. Les profs sont là pour nos enfants, pas pour leurs idées, résume Franck. Et vous, est-ce que vous comprenez ces appels à la désobéissance en cas de victoire du Rassemblement National aux législatives, ou est-ce que ça vous choque? Venez nous le dire ce matin, vous nous appelez, on attend vos témoignages au 3216. Vous pouvez également laisser vos messages sur l'appli RMC, onglet Direct Studio.
RMC au 3216, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 73216, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
8h20, vous êtes bien sur RMC. Alors qui gouvernera la France à partir du 7 juillet?
L'invité du jour.
Élément de réponse avec Bernard Sananès ce matin. Bonjour Bernard.
Bonjour Charles.
Vous dirigez l'Institut Elab et vous avez sondé les Français ce week-end pour BFM TV et La Tribune dimanche. On apprend beaucoup de choses dans ce sondage sur la manière dont les Français jugent les programmes économiques, les partis qui les inquiètent le plus. Mais d'abord, à 6 jours du premier tour, regardons les dernières tendances. Bernard Sananès, le RN fait toujours largement la course en tête, mais il y a aussi une dynamique, que ce soit du côté du Nouveau Front Populaire ou de la majorité sortante.
Oui, effectivement, on voit bien que ce scrutin ressemble un peu à une confirmation du vote des européennes. Le RN et ses alliés, si on ajoute Reconquête, feraient quasiment le même score que le bloc de la droite radicale il y a 15 jours aux européennes, c'est-à-dire 36 plus 2, 38%. Ça lui donne une dynamique très forte, notamment pour le premier tour de ces élections législatives. Ça lui permettrait de se qualifier dans la grande majorité des circonscriptions. Premier point.
Mais le Nouveau Front Populaire confirme sa deuxième place, mais une dizaine de points derrière.
Tout à fait, il confirme sa deuxième place, notamment parce qu'il arrive à mieux mobiliser son électorat qui était un peu abstentionniste. Il y a une forte mobilisation chez les jeunes qui s'annonce. À l'inverse, il est pénalisé par une chose, les reports de voix de l'électorat Glucksmann, donc Parti Socialiste, sur les candidats du Nouveau Front Populaire ne se font pas dans la totalité, il en manque un tiers. C'est pas négligeable quand même.
Il y a un tiers des électeurs qui ont voté Glucksmann il y a une quinzaine de jours maintenant.
Pour l'instant qu'ils ne voteront pas pour le candidat du Nouveau Front Populaire, vraisemblablement dans des circonscriptions où le candidat est issu de LFI. Ça peut pénaliser cette dynamique unitaire qui était pourtant réelle pour le NFP.
Et puis il y a donc en troisième position la majorité sortante, autour de 20% d'intention de vote. Autre question, qui votera dimanche prochain? On annonce une participation en hausse, on nous parle d'un million de procurations enregistrées. Est-ce que les Français savent ce matin pour qui ils vont voter? Est-ce que c'est figé ou est-ce que ça peut encore bouger?
On est dans une campagne très courte, la cristallisation arrivera tardivement. On est à peu près dans les mêmes eaux qu'aux européennes. On a déjà 7 Français sur 10 qui savent pour qui ils iraient voter. Mais vous avez raison, Charles, de souligner le point marquant pour l'instant, c'est qu'une hausse de la participation très forte s'annonce. Il faut rappeler qu'aux dernières législatives, la participation avait été de 48%. Moins d'un Français sur deux avait été voté. Là, on pense qu'on sera à 60%, voire peut-être plus, 62-64. C'est l'indicateur projeté par Elab sur la base de cette enquête. Là aussi, c'est nettement plus qu'aux européennes. Un petit calcul, ça pourrait être 5 millions d'électeurs de plus que lors des européennes.
Et ça, on sait à quel camp ça pourrait profiter?
Alors, ça profite à tous les camps. Il n'y a pas de différence. En revanche, sur un plan classe d'âge, on voit bien que les jeunes seraient plus surmobilisés. C'est-à-dire que les européennes ne les avaient pas énormément mobilisés. Mais là, les jeunes iraient plus voter. Et une petite dynamique pour la gauche.
Mais alors ensuite, ça, ce sont des intentions de vote pour dimanche prochain. Mais ensuite, il va y avoir un entre-deux tours pour déterminer les députés une semaine après. Et c'est là qu'il y a une grande part d'inconnus. Dans votre sondage, il y a des projections en sièges. Je vais les donner. Le RN et ses alliés obtiendraient une majorité relative entre 250 et 280 sièges. Il faut, je vais le préciser, 289 sièges pour obtenir la majorité absolue. Pour le Nouveau Front de Gauche, ce serait le Nouveau Front Populaire, entre 150 et 170. Et pour le groupe Ensemble, la majorité sortante, 90 à 110 sièges. Mais précisons, Bernard Sananès, que ces projections sont encore fragiles.
Oui, il faut les prendre avec prudence, comme toujours, jusqu'au soir du premier tour. Racontons peut-être comment ça se fabrique, ces projections. D'abord, l'intention de vote dont on a parlé, qui est la base de ces projections, elle se fait sur ce qu'on appelle l'offre réelle, c'est-à-dire que les sondés ont devant eux, non pas des étiquettes politiques, mais le nom des candidats dans leur circonscription. Déjà, c'est beaucoup
plus... Là, il y a des enjeux locaux, on peut connaître son député, etc.
Donc, ils sont mieux appréhendés. Deuxièmement, les échantillons sont plus gros, 2000 personnes au lieu des 1000 traditionnelle. Troisièmement, on pose la question aux sondés, si dans votre circonscription, au second tour, vous deviez avoir telle configuration, pour qui voteriez-vous? Donc ça nous donne ce que l'on appelle des matrices de report. Et c'est à partir de ça qu'on fait la projection, en intégrant, je ne veux pas être trop technique, en intégrant la dimension locale. Par exemple, évidemment, on a toujours un petit booster pour les sortants qui sont bien implantés. Alors,
tout va dépendre de ce qui va se dire à partir de dimanche soir dans les états-majors politiques, les appels à voter pour tel ou tel, à faire barrage pour tel ou tel, ça peut changer la dynamique lors du second tour et comment dire, c'est difficile avant le premier tour de savoir
bien sûr
quel sera le résultat du second. Il y a deux autres points particulièrement intéressants dans ce sondage ELAB. Vous avez d'abord posé la question aux Français sur leur inquiétude vis-à-vis du RN ou du nouveau Front Populaire sur leur arrivée au pouvoir. Quel est le bloc qui inquiète le plus les Français?
Alors, c'est d'abord, les chiffres sont très proches, mais les deux blocs, Rassemblement National et ses alliés et Nouveau Front Populaire, inquiètent un Français sur deux, voire plus. Mais on voit que le Nouveau Front Populaire inquiète légèrement plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un second tour, où il peut y avoir potentiellement 200 duels qui opposeraient, ou voire plus, 200 duels qui opposeraient le Rassemblement National et la gauche, ce sera un match, excusez-moi l'expression, un match de la peur. De qui a-t-on le plus peur? De qui est-on le plus inquiet? Et cette dynamique de la peur, de l'inquiétude, ce sera une des clés du second tour.
Et puis la semaine dernière, on a beaucoup parlé des différents programmes économiques. Ouais. Jordan Bardella doit d'ailleurs détailler encore plus ce matin celui du Rassemblement National. Vous avez sondé aussi les Français sur cette question des programmes économiques. Là aussi... le Rassemblement National est jugé en fait le plus crédible sur ce point.
Alors d'abord, si on regarde bien les chiffres, aucun parti n'est jugé crédible. Comme c'est si vrai. Finalement, on ne croyait plus au programme et à la promesse politique. Ensuite, vous avez raison, c'est surprenant de voir que sur les questions économiques, sur lequel le RN a toujours été un peu pénalisé en termes de crédit, jusqu'en 2022 en tout cas.
Et on a beaucoup entendu la semaine dernière la majorité sortante, par la voix de Gabriel Attal ou d'Emmanuel Macron, pointer la faiblesse présumée sur cette question du Rassemblement National. On voit bien que ça ne prend pas dans votre sondage comme argument.
Non, ça ne prend pas. Pourquoi ? D'abord parce que la question du décalage sur les prévisions de déficit budgétaire a beaucoup marqué l'opinion. Et elle joue en revers contre la majorité. On dit à la majorité, finalement, vous étiez des experts, vous nous avez dit que vous étiez sérieux dans vos prévisions, et ça n'a pas été le cas. Ça a encore une fois beaucoup marqué l'opinion. Puis deuxièmement, quand vous êtes en colère, quand vous considérez que vos fins de mois sont difficiles et qu'on vient vous dire que cela va mieux, même si statistiquement c'est vrai, et il ne faut pas le nier, les économistes vous diront que l'inflation a été ralentie, vous avez la confrontation entre le tableau Excel et le caddie. Voilà. Et dans la confrontation entre le tableau Excel et le caddie, la colère l'emporte sur la recherche de crédibilité à tout prix.
J'ai une dernière question, Bernard Sanalès. Qu'est-ce qui va faire bouger les choses là? Il reste 6 jours avant le premier tour, il reste même 4 jours de campagne en réalité. Ouais. La campagne s'arrête vendredi à minuit. On voit Emmanuel Macron qui s'adresse une nouvelle fois aux Français, cette fois à travers une lettre. Il y a un premier débat programmé demain soir à la télé. Quels sont les éléments qui peuvent encore faire
bouger? Pour moi, l'équation tient en une phrase. Est-ce que l'envie de changement sera plus forte que la peur du changement? Il y a l'envie de changement, elle est très forte et on le sent, elle s'exprime dans le vote RN, elle s'exprime aussi dans le vote de gauche, qui est un vote pour modifier le système, lutter contre les inégalités, et la gauche profite d'une dynamique. Mais est-ce que cette envie de changement va l'emporter sur la peur du changement? Est-ce qu'en fin de campagne, des électorats plus sensibles à ces questions, il y en a, les retraités, les cadres, vont se dire c'est le saut dans l'inconnu si on vote pour tel ou tel?
C'est donc l'enjeu de cette semaine. Et puis au second tour, ce sera un match de la peur, comme vous nous l'avez dit ce matin. Bernard Sanalès, directeur de l'Institut ELAB, merci d'avoir été dans ce studio ce matin pour décrypter les tout derniers enjeux à 6 jours maintenant du premier tour de ces élections législatives. Il est 8h-10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant sur RMC, c'est Expliquez-nous avec Nicolas Poincaré.
Et je vous explique les raisons du regain de violence en Nouvelle-Calédonie.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus avec Martin Bourdin. C'est la sortie cette semaine au cinéma d'une nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo.
Ce sera l'événement cinéma de la semaine. Le Comte de Monte Cristo, classique de la littérature. Le personnage d'Edmond Dantès, de retour donc dans les salles, interprété cette fois-ci par Pierre Niney, sauf que interpréter le Comte de Monte Cristo, même quand on s'appelle Pierre Niney, eh bien c'est un sacré boulot. Il a pris des cours d'apnée, des cours d'équitation, d'escrime, et pour prendre les traits d'Edmond Dantès, Pierre Niney a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au maquillage.
On a fait 150 heures de maquillage en tout sur le film, sur 75 jours de tournage, un truc comme ça. Je crois que c'est la première adaptation en film où on va vraiment au bout de ce concept de la transformation physique de manière réaliste.
Pierre Niney en tête d'affiche, mais au casting, il y a aussi Laurent Lafitte, Anaïs Demoustier. Le film avait été présenté à Cannes le mois dernier. Il arrive donc au cinéma. Attention, ce ne sera pas mercredi, mais vendredi, puisque le film sort à l'occasion de la fête du cinéma Le Comte de Monte Cristo.
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Mais c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo.
RMC, Apolline Matin.
7h53, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. On a assisté ce week-end à un regain de tension en Nouvelle-Calédonie. Des débordements ont éclaté après l'annonce du transfert vers la métropole de 7 dirigeants indépendantistes.
Oui, 7 dirigeants, dont Christian Tin, le principal leader indépendantiste. Il a été arrêté samedi avec 10 autres personnes. À l'issue de leur garde à vue, 9 ont été mis en examen avec de graves chefs d'inculpation. Complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec armes, destruction en bande organisée. La justice leur reproche d'être à l'origine des émeutes qui ont fait 9 morts, dont 2 gendarmes depuis la mi-mai.
Mais la surprise, c'est qu'ils n'ont pas été incarcérés en Nouvelle-Calédonie.
Oui, décision surprise pour tout le monde et d'abord pour les personnes concernées et pour leurs avocats. À l'issue d'une audience devant le juge de la liberté, leur placement en détention a été ordonné et aussitôt après, un avion a été spécialement affrété pour conduire ces prisonniers en métropole. Hier, ils ont été incarcérés dans différentes prisons à Dijon, à Mulhouse ou bien à Rion. Le procureur de Nouméa a expliqué que ce transfert avait été décidé en raison de la sensibilité de la procédure. Selon lui, ça va permettre de poursuivre l'enquête de manière sereine et hors de toute pression. Mais concrètement, cela veut tout de même dire que 7 personnes se retrouvent maintenant incarcérées à 17 000 km des juges d'instruction qui enquêtent sur eux et aussi accessoirement à 23 heures de vol de leurs avocats.
Qui sont ces 7 personnes-là, ces 7 indépendantistes?
Alors, presque tous des membres de la CCAT, la Cellule de Coordination des Actions de Terrain. C'est un mouvement créé récemment pour s'opposer à la réforme du corps électoral que contestent les indépendantistes. Christian Tin en est le leader, surnommé Bichou. C'est un militant indépendantiste de longue date. Quand Emmanuel Macron était venu en Nouvelle-Calédonie fin mai, Christian Tin lui avait dit « C'est ton mec qui a du sang sur les mains ». Ce mec en question, c'était Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a qualifié le CCAT de mouvement mafieux et violent qui tire sur les gendarmes à balles réelles. Christian Tin conteste ces accusations. Il affirme que son mouvement condamne au contraire les débordements. Mmh. En dehors du leader, la chargée de communication de la CCAT, Brenda Wenabou, a été aussi transférée vers une prison en métropole, ainsi que la directrice de cabinet du président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Et ces transferts pourraient remettre le feu aux poudres.
Oui, la dernière nuit a été très agitée. Plusieurs bâtiments, dont un commissariat et une mairie, ont été incendiés. De nombreux affrontements ont eu lieu sur des barrages entre les forces de l'ordre et les indépendantistes. Des tensions qui surviennent alors que le calme était plutôt en train de revenir, notamment en raison de la dissolution. Puisque ce qui a provoqué les violences depuis 6 semaines, c'était l'annonce d'une possible adoption de la loi sur le dégel du corps électoral, loi a priori défavorable aux indépendantistes. Votée dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée, il aurait fallu la faire adopter par le Congrès réuni à Versailles. Or, l'Assemblée étant dissoute, eh bien le Congrès ne peut plus être convoqué. Emmanuel Macron en a tiré les conséquences en affirmant dès le lendemain de la dissolution que la réforme électorale était suspendue. Et puis, il y a peu de chances que cette réforme soit relancé après les législatives. Le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, aura certainement d'autres priorités. Jean-Luc Mélenchon a pris parti pour les indépendantistes. Il dénonce le néocolonialisme de Paris. Quant à Marine Le Pen, qui était historiquement très favorable aux loyalistes, eh bien, elle vient de prendre une position très différente en se prononçant pour un nouveau référendum dans une quarantaine d'années. Bref, la réforme qui a mis le feu à la Nouvelle-Calédonie est certainement morte et enterrée, mais l'incendie n'est pas encore éteint pour autant.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, à retrouver quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. 7h57, dans un instant, on se retrouve pour la météo et le journal de 8h avec à la une le Rassemblement National qui dévoile ce matin son programme économique. On vous dit tout dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.